Alors, je présente Audrey Duru, qui est professeure à l'université de Picardie Jules Verne en littérature du XVIe siècle. Elle est spécialiste de la poésie spirituelle du tournant des XVIe et XVIIe siècles, sur laquelle elle a publié en 2012 un livre tiré de sa thèse, Essai de soi, poésie spirituelle et rapport à soi entre Montaigne et Descartes. Elle a publié de nombreux articles sur les pratiques poétiques lettrées éditoriales au XVIe siècle. Puis plus récemment, elle s'est tournée vers l'écriture humaniste et lettrée à partir de ses marges, je pense. Et notamment, elle travaille sur l'écriture de la cécité et de la surdité et l'humanisme au féminin. Et puis j'ajouterai qu'elle est membre du groupe de recherche sur l'histoire du littéraire, le GRIL, qui n'a pas été beaucoup mentionné, qui est présent quand même.
Merci beaucoup, Laurent, c'est pour la présentation, puis l'organisation pendant le propos. Intellectuel et théorique de cette journée. Peut-être que tout le monde a eu le document qui est en fait très, très imparfait. Je reste sur quelques citations en fait, dans un album de développer, mais je pense qu'on va y revenir. Et donc cette journée en fait me permet de revenir sur un dossier que j'ai travaillé, mais voilà, pour lequel j'avais l'impression de reste irritant. Et c'est en lisant l'argumentaire de la journée que je me suis dit que peut-être c'était l'occasion de reprendre ce reste. Et donc, ce dossier, en fait, concerne deux lettres imprimées qui ont été signées par une femme qui se nomme Charlotte de Minute, qui signe Charlotte de Minute. Je ne sais pas si on dit Minute ou Minute, j'ai tendance à prononcer le D comme c'est d'origine italienne, j'ai bien. Et ces deux lettres, en fait, escortent deux ouvrages de son frère, Gabriel de Minute. Je vous ai mis en regard, en fait, la page de titre du premier traité politique latin, sur lequel, donc, le seul nom qui apparaît, celui de son frère, Gabriel de Minute, et puis, le nom de sa sœur, au bas de la lettre. Alors, le souci est que je comptais sur le diaporama pour lire la signature et que là, je ne la lis pas.
Charlotte de Minute.
Bon, et elle indique en fait qu'elle est.
Donc elle signe, voilà, abbesse des pauvres Clarisse, je pense, de Toulouse.
Voilà, et donc il y a deux traités, le second étant. Le second est en français, s'intitule De la beauté, et les deux lettres sont jumelles avec les signatures, donc. Assez proche, Charlotte, deux minutes, toulousaine, et elle contrôle, donc, ces deux lettres escortent les ouvrages de son frère, dont elle contrôle l'édition à titre posthume. Son frère est décédé en 1586. Donc, le dossier intéresse parce que 7 ans avant Marie de Gournay, on voit une femme agir avec la littérature en tant que dépositaire de la mémoire d'un auteur, et on la voit agir donc en éditant et en préfaçant un écrit masculin. Alors, je pensais avoir réussi à dessiner le cadre qui régule la gentilité féminine par l'écrit et la publication dans l'article que je me suis permis de vous envoyer, mais tellement tard qu'en fait, ça une bonne excuse pour ne pas l'avoir lu. Mais en fait, il me restait une pièce dont je ne savais pas quoi faire dans ce dossier. Le fait que par sa vie, par sa famille, Charlotte de Minute est localisée à Toulouse. Alors, je suis allée aux archives de Toulouse pour essayer de pister un petit peu plus son action. Alors malheureusement, la seule chose que j'ai trouvée, c'est cette signature sur 2 minutes abbesse, voilà, dans les archives du couvent, mais qui sont très pauvres sur elle. Bon, je confirme. Il y avait une Charlotte de Minute abbesse, et puis je passe sur les considérations que j'avais sur la localisation du couvent dans Toulouse. Voilà un plan de 1631. En fait, comme il y a des Toulousaines dans la salle,
vous pouvez tout surveillance.
Non, mais enfin, un public possible. Ce qui m'a intéressée, c'était, en fait, c'est la seule chose que voilà, j'ai tiré moi, c'est toujours à Toulouse en archives, c'est la ville de la ville. C'est actuellement, donc si vous savez, les locaux de l'Université catholique et donc tout près de la place du Salin, ce sont les Clarisses du Salin, et donc aussi tout près de la place où manifestement avaient lieu les exécutions et le Parlement. En fait, on est dans l'empreinte urbaine, l'empreinte urbaine du Parlement. Mais ce qui me tracassait, c'est que la publication de ces deux ouvrages, si je les remets, je les remets sous les yeux, a lieu à Lyon, chez Barthélémy Honora. Et donc, ça suppose que l'action de cette Clarisse localisée à Toulouse a eu des relais donc, dans le milieu du livre à Lyon. Il me semble que cela jette tout de même un certain doute, et cela trouble en tout cas le récit de publication qui est le sien, le récit dans lequel elle affirme contrôler complètement les deux livres, ce qu'elle met en récit dans ses épîtres dédicatoires. Les épîtres dédicatoires servent à ça, à proposer ce récit éditorial et son rôle d'éditrice. Alors la notion de scène familiale permet peut-être de reprendre le problème de l'extension éventuelle de l'action féminine dans des espaces plus inattendus, d'un déplacement de son action, d'abaisse, voilà, qui gouverne un couvent grâce à l'écriture, en l'envisageant donc non seulement dans un hypothétique groupe, je l'avais fait en fait dans l'article, en envisageant le milieu du livre, milieu de l'édition, bon, qui restait assez fou, enfin, donc on va dire le résultat, les deux livres existent, mais grâce à Laurence, on peut essayer de repenser les choses dans un groupe qui en fait était beaucoup plus visible que cela dans le dossier, que je n'avais pas vraiment voulu examiner, qui est celui de s'approche par un. Alors je reviens rapidement sur les travaux antérieurs et puis la façon dont la journée permet de proposer un petit quelque chose de plus. En fait, ces deux lettres ont été étudiées par Suzanne Bourbeau. J'avais indiqué la référence de l'article et il est dans la bibliographie. J'ai oublié la moitié de la bibliographie que je vais signaler dans le document. Désolée. Et elle a été frappée, en fait, Suzanne Bourbeau, par ce qui me frappe également. Le nombre de minutes nous paraît aujourd'hui bien insignifiant, alors que les dédicataires, en fait, sont du plus haut rang dans la hiérarchie. Du moment, en fait, elle commente l'équivalence entre le don du livre et la peinture, en fait, du grand qui est représenté, ce qui justifie voilà, le fait que je l'ai mis, j'ai ajouté de l'iconographie, puisque son premier dédicataire, c'est donc le pape Sixte Quinte, avec la voir ce beau tableau. Et puis, la seconde dédicataire, c'est Catherine de Médicis. J'essaie d'échapper à la veuve noire, mais elle continue à faire forte impression. Et donc, Suzanne Bourbeau fait cette publication une entrée en politique fracassante. Pour elle, Charlotte de Minuit est l'une des premières femmes en Europe à prendre la parole sur la scène politique pour énoncer un conseil politique. Et j'avais écrit quelques exemples de commentaires du temps, c'est donc l'extrait sous numéro DB14, donc de la beauté, le traité dédié à Catherine de Médicis, page 14. Je passe, mais pourquoi Suzanne Bourbeau évoque l'idée d'un conseil politique. Il est juste que les lettres tiennent un propos public sur la misère du temps et les lettres renvoient dos à dos les partis ligueurs catholiques d'un côté et protestants de l'autre. Elles sollicitent l'intervention donc, de deux pouvoirs institués, la monarchie des Valois et la papauté, le tout en faveur donc, de la paix civile d'une part, de manière collective, et puis de l'autre en faveur donc, d'un subside pour le couvent de Charlotte de Mouy. La marche est aussi intéressée en tant qu'abbesse pour une fille. Et donc, si je reformule les choses, ce sont mes propres analyses. Suzanne Bourbeau écrit une histoire qui interroge en fait la conquête, je pense qu'il y a vraiment ce modèle de conquête par les femmes de leurs droits et de conquête d'une voie politique. Donc, elle établit une frontière entre l'espace domestique, auquel la parole des femmes serait confinée au XVIe siècle, et puis l'espace public
dévolu aux hommes.
Et si je reformule, il me semble qu'elle envisage avec Charlotte de Minuit un moment de transgression, peut-être pas fondateur, mais en tout cas originel, donc de transgression genrée. Alors, un élément qui en fait est erroné me paraît significatif dans cette optique. Suzanne Bourbeau insiste sur le fait qu'en tant que religieuse, Charlotte de Minuit transgresserait encore plus fortement la frontière entre privé et public, puisqu'avec cette publication, Charlotte de Minuit ne respecterait pas la clôture religieuse imposée par le Concile de Trente entre donc, l'espace conventuel d'un côté et puis l'espace séculier de l'autre. Alors en fait, en l'occurrence, la clôture n'est pas établie dans ce couvent de Toulouse,
en tout cas pas à cette date-là. Et un élément qui me paraît intéressant, c'est ce petit document, donc, dans l'autre fond d'archives, qui garde la trace de l'élection de Charlotte de Minute. Alors, vous savez, les abbesses sont abbesses perpétuelles, et donc elle a été élue par les religieuses de sa communauté. Et là, ça s'accompagne d'une approbation de l'élection, donc un contrôle masculin tout de même assez fort par un autre franciscain. Mais ce qui est surtout frappant, donc l'élection le 21 décembre 1594, elle-même l'évoque d'ailleurs dans ses lettres, c'est fondateur de certaines autorités, le fait qu'elle ait été élue presque à l'unanimité, enfin, on comprend que non, mais voilà, par ses consoeurs, et surtout en présence donc, d'une foule de témoins séculiers, des juristes en fait du Parlement de Toulouse. Alors je saute un petit peu ces noms qui ne disent pas forcément grand-chose, mais enfin, vous voyez, président du Parlement de Toulouse, même un rôle important, président des enquêtes, etc. Puis un des derniers, Gabriel de Minute, seigneur baron du Castéra. Son frère est présent pour être témoin de cette élection et manifestement la contrôler, la consolider avec ses autres parlementaires toulousains. Alors, ce détail, donc, du fait qu'en fait la clôture n'est pas établie, n'altère pas du tout l'intérêt de la réflexion de Suzanne Grumol. Il me semble qu'il amène juste en fait à relativiser cette figure un peu solitaire d'une femme forte et au contraire à essayer de penser davantage la participation en fait de Charlotte de Minute à différents groupes qui lui permettent d'agir. Alors en fait, ma propre perspective n'est pas moins aventureuse que celle de Suzanne Grumol, puisque en fait ces lettres m'ont intéressée dans le cadre voilà, d'une histoire qui essaie de réfléchir à l'expansion de la légitimité à écrire et à publier après Ronsard. Donc si on veut vraiment être anachronique, voilà, dans une histoire littéraire qui a pour point de mire une démocratisation de l'édition et de la littérature. Et en fait, comme Suzanne Grumol, je pense avoir eu au départ le préjugé que Charlotte de Minute, en fait, ne reste pas à la place qui lui est assignée, que ce soit dans l'espace domestique et privé, ou bien, en fait, c'est ce qui fait davantage, dans le fait de placer en miroir son propre gouvernement d'Abbesse et le gouvernement de Catherine de Médicis, donc dans la lettre qui est dédiée à Catherine de Médicis, et que, manifestement, elle légitime réciproquement ces deux gouvernements féminins, le sien dans son couvent et celui de la reine-mère. Alors, le rôle de Catherine de Médicis, évidemment, enfin, vous savez, discuté par sorte de juriste pendant les guerres civiles qui le couvre comme élément fauteur de troubles. Et donc, bon, quelle est la place de l'action féminine dès lors qu'une femme agit et qu'elle publie? Est-ce que cela, en tout cas à la fin du XVIe siècle, déplace l'action féminine? Est-ce que cela élargit son espace? Est-ce que c'est une action déplacée au sens moral, tout juste tolérée? Voilà, que fait-on de ces questions dans ce dossier? Et dans le cas de ces épîtres, il me semble qu'il y a un effet effectivement d'émancipation féminine, de votre point de vue, en tout cas d'émancipation féminine relative, l'impression qu'elle va repousser une frontière d'action genrée, lié au fait qu'aucun autre nom d'homme de sa famille n'apparaît dans les publications. Le seul nom, c'est celui de son frère défunt, Gabriel de Minute, décédé auparavant, ou en tout cas l'année passée. Alors, j'avais repris l'examen de ces lettres munies des acquis de l'histoire du livre, parce que voilà, la notion de voix me semblait peut-être un peu fragile. En tout cas, il me semble que la voix de Charlotte de Minute est un artefact de la publication, et que donc, le contexte à envisager, c'est celui de la production du livre. Il me semblait que, voilà, je donnais une cohérence en observant, que le déplacement de l'écriture du couvent à la publication du couvent est possible par un appareil juridique, par une pensée juridique qu'elle pousse à ses limites, puisqu'en fait, en publiant son frère dans les deux épîtres, elle dit agir en son nom, donc peut-être même pas seulement comme exécutrice testamentaire, mais vraiment comme procuratrice. Et par ailleurs, dans des actes juridiques extérieurs au dossier, elle a eu une procuration de son frère pour certains actes. Et il me semble donc que cela explique en partie le déplacement des normes de genre. Alors, elle écrit en fait formellement deux requêtes, donc en tant que justiciable qui saisit les autorités publiques. Ce type de requête, de sollicitation, en fait, appartient, me semble-t-il, au répertoire de l'action féminine. J'ai retenu en particulier cette publication 2 ans plus tard de Catherine de Clèves. Alors, la question familiale est toujours présente. C'est une demande d'information judiciaire, en fait, après l'exécution donc, de son mari, le duc de Guise, en 89. Donc, c'est une requête présentée par Madame la Duchesse de Guise. Donc, ce texte est imprimé et la requête se fait au féminin. Alors, évidemment, non imprimé, mais ça devient un libelle dans le contexte. En éditant en fait les traités de son frère, elle fait plus que proposer une requête. Elle utilise en fait la charge qui était celle de ce juriste. Il a été maître des requêtes. Alors les choses sont petit peu flou. Parmi comment dire, les documents qui subsistent, il a été pour Marguerite de Valois, donc la sœur de François Ier, différentes sources contemporaines de la publication semblent dire qu'il l'était pour Catherine de Médicis. En tout cas, il a été rapporteur de telles requêtes dans le Conseil royal, c'est-à-dire voilà, le regard, l'oreille du roi auprès des sujets pour faire remonter des requêtes. Et donc, de façon figurée, par la publication, elle confie à son frère ses lettres requêtes. Et son frère défunt, par le livre, les présente à Catherine de Médicis et à Sixte IV. Parce que ça va jusqu'au bout. Donc, voilà, un premier déplacement par le véhicule d'une métaphore juridique qui reste problématique, mais qui me paraît tout de même permettre d'insister sur une stratégie. Voilà, elle pousse le plus loin possible la possibilité d'action que lui donne son statut, non seulement de sœur, mais de procuratrice qui agit à la place du défunt. Alors, il restait quand même la question du déplacement spatial d'un couvent de Toulouse, où elle vient effectivement localisée, à un imprimeur libraire de Lyon. Et donc, j'étais prête à envisager des médiations voilà, dans la chaîne de production d'un livre, ce qui me semblait peut-être pouvoir être rapproché du fait que ces lettres ont une fonction critique assez forte, en présentant en fait un savoir féminin sur le livre, un discours sur le livre très riche dans ses épîtres. Et en insistant donc toujours, enfin, de façon topique, sur son insuffisance à, respecter les normes d'un livre, elle fournit donc un point de vue critique sur le livre. Elle révèle ce que doit être un livre, avec, me semble-t-il, en creux, une façon de se placer hors partie et refuser de produire un libelle. Voilà, c'est une façon de prendre ses distances avec une publication qui serait celle du libelle. Elle cherche à intervenir par le livre autrement, et où il me semble bien que le milieu du livre produit une lettre d'abaisse qui sert en fait à rappeler le modèle du livre humaniste qui est signé, qui est adressé à un dédicataire, inscrit dans une clientèle, et donc au fond qui propose une édition qui, elle, à mon avis, est dépolitisante. En réalité, il s'agit de dépolitiser le livre, de l'éloigner du libelle et de revenir à un modèle humaniste. Alors, ceci dit, voilà, je restais quand même un peu embarrassée par quand même de toute cette affaire et puis cette figure de femme magistrat qui apparaît dans le dossier. Alors, la journée me permet de proposer une hypothèse que je formule tout de suite, et là, ça fait partie des questions ouvertes, c'est peut-être un peu à l'emporte-pièce et à discuter. Je verrais peut-être une régulation plus précise de l'action féminine dans un espace familial. Il me semble avoir vu qu'assez souvent, les femmes entrent sur la scène imprimée, donc là, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, pendant les conflits civils, donc soit comme autrice, soit comme dédicataire, lorsqu'elles sont veuves, ou lorsqu'elles viennent de perdre un fils, ou dans le cas précis, un frère. Il me semble qu'il y a quelque chose comme un mécanisme par analogie, une pensée par analogie. De la même façon que Catherine de Médicis exerce une régence en tant que reine-mère, ou a pu l'exercer à un niveau familial, il me semble qu'on voit apparaître l'idée d'une régence domestique, qu'en fait, une femme, en l'absence du chef de famille, est susceptible d'occuper temporairement certains de ses rôles. Voilà, il y a une vacance, du pouvoir dans l'espace familial, et que c'est le moment, en fait, où les femmes écrivent, les autorisent peut-être à publier et où elles-mêmes sont mises en scène comme élément d'un lignage, d'une famille, etc. Ce matin. Alors, concernant Charlotte de Minute, j'avance rapidement trois arguments par rapport à mon article. Ça me permettait de rassembler des éléments que je n'avais pas bien réussi à faire tenir dans l'édifice. Alors, elle situe, par exemple, Catherine de Médicis sur la scène publique de sa famille, avec une apologie donc assez longue du mécénat des Médicis, qui me paraissait un peu digressif quand même par rapport à la nécessité d'exalter le prestige de la dédicataire. Alors, ce qui me semble intéressant, j'ai repris une toute petite citation, c'est qu'en fait, c'est une façon de lui prêter les vertus héroïques des hommes de sa famille. Elle le formule dans De la beauté, ça doit être la toute première citation, ailleurs, les questions des feux, je crois, écoutez, Ah, voilà, c'est la toute dernière citation. Telles vertus qui sont particulières à votre temps noble et juste maison sont parvenues en toute perfection à vous, madame. Donc, Catherine de Médicis synthétise les valeurs de sa famille et les dix plus hauts, ce sont des vertus héroïques et masculines, en fait, et celles des hommes des Médicis. Donc, par le moyen de la pensée par analogie, on peut aussi faire l'hypothèse que Charlotte de Minute présente, en fait, son action sur une scène familiale comparable, notamment parce qu'en fait, son frère, dans le traité de la beauté, dans le chapitre 15, évoque, en fait, une histoire, comment dire, l'histoire du lignage des Minutes en le rattachant à différents Minucius de la République romaine et en insistant en fait sur leur rôle au service de la chose publique dans l'Antiquité en faveur en particulier de l'allaitement maternel. Donc, sont des, comment dire, une famille pré-héracinienne qui déjà voilà, insiste sur l'importance comment dire, du rôle féminin dans ce contexte-là. Donc, voilà, une façon de mettre en miroir deux femmes dans leur famille. Et surtout, en fait, dans ses lettres, au deuxième argument, elle expose un savoir de la sociabilité lettrée, donc du livre comme objet social, qui développe notamment la fonction de la dédicace d'un ouvrage et elle associe ce geste à la théorie en accomplissant en fait un geste d'offre, de don du livre que l'on retrouve chez son père et son frère. En fait, en travaillant le dossier, j'étais un peu embarrassée par, au fond, tout ce qu'on sait sur son père, qui est une figure lettrée plus ou moins connue. En revanche, son père, les choses sont plus obscures. Alors, je n'ai pas tout développé. Voilà, je sélectionne ce qui peut nous intéresser pour le propos. Son père, j'ai presque fini, est un Italien de Milan qui offre, en fait, est connu pour avoir offert un beau manuscrit que vous avez rappelé, qui ne s'affiche pas, à François Ier. Donc, il passe de Milan au service du roi de France et devient donc, agent de Toulouse. Et on a de lui donc un très grand nombre de traces lettrées parce qu'il est à la fois dédicataire de toutes sortes d'humanistes, notamment qui lui dédient des vers grecs de façon assez variée. On a un très, très important tombeau à sa mort. Son fils fait la même chose. On a également un manuscrit. Alors, malheureusement, on ne peut pas le consulter d'abord parce qu'il est à New York et puis ensuite parce que si bien comprendre, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, enfin, je ne sais pas ce qu'il contient, c'est un alphabet de l'astrologie, en revanche, il y a une magnifique reliure qui est photographiée et qui correspond en fait à des emblèmes de Marguerite de Valois et qui lui a été offert donc, par Gabrielle de Menus à Marguerite de Valois. Donc elle rejoue en fait ce geste et ce frère Gabrielle est également au sein d'un réseau lettré. Alors lui écrit davantage que son père, j'ai plus de mal à le situer. Donc, Jacques de Minute, son père, est surtout connu pour avoir protégé en fait Étienne Dolet, qui avait été emprisonné par le Parlement de Toulouse pour l'avoir attaqué, et face à une figure de clémence pour avoir fait libérer Étienne Dolet en 1500. Et donc, dernier élément, elle-même donc, ne se contente pas, je pense, de transmettre en fait cet héritage comme l'a vu ce matin, masculin, en fait, en refaisant le même geste, elle, bien qu'elle soit abbesse, en fait, elle poursuit l'écriture d'une scène familiale, mais métaphorique, spirituelle. Alors, c'est sans doute assez banal quand on s'adresse au pape de souligner sa paternité spirituelle, ou quelque part, l'exemplier, le moment où elle s'adresse à lui comme un père, et elle se présente comme fille de l'Église. Mais elle mobilise aussi, il paraît, Catacrès lorsqu'elle évoque la maternité spirituelle de Catherine de Médicis pour l'ensemble du royaume. Alors, les deux lettres ne sont pas destinées à être lues ensemble, mais la gémellité fait qu'il y a vraiment un père et une mère dans cet imaginaire politique et religieux familial. Et j'aurais tendance à le penser dans ce contexte-là comme un élément qui permet de produire cette autrice qui vient justifier l'apparition de cette autrice. Donc voilà, Charlotte de Minute agit en lettré sur le même modèle que son père, que son frère. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à comprendre son action comme une participation issue de leur même réseau, en fait lettré et parlementaire? On a vu que le Parlement était là au moment en fait de son élection et qu'il est juste à côté du couvent. Donc est-ce qu'il y a un tel déplacement que cela de l'action lorsqu'elle fait ce qu'elle fait en écrivant et en publiant.
Alors certes, elle n'est pas veuve, elle n'a pas perdu un fils, mais il y a bien quand même ce contexte de vacances du rôle de chef de famille. Il me semble que l'intérim voilà, est propice à voir des femmes endosser temporairement des vertus masculines afin d'assurer donc, la stabilité de la maison et de la lignée.
Alors il reste une tension avec son statut d'abbesse qui aurait dû la désaffilier, mais voilà, ça ne me semble pas compatible avec une valorisation littéraire,
avec des filiations métaphoriques. En tout cas, cette mobilité temporaire me paraît tolérée dans le contexte de deuil. Donc, voilà. J'attirais l'attention peut-être sur les moments précis de vie féminine
et les moments donc, de remaniement qui accompagnent le deuil du père de famille. Yeah.